Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous, un grand merci également à Pascal Paradou, Alexis Fricker, Anne Cantonner et Chantal Leroux qui se sont succédés à ce micro ces deux dernières semaines pour commenter avec vous l'actualité. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle au Niger. Alors vous me direz que le scrutin n'est prévu que dans 2 ans, c'est vrai. Pourtant, plusieurs poids lourds sont déjà entrés dans la course. Dernière investiture en date, celle de Mohamed Bazoum, le puissant ministre de l'Intérieur, a été choisi pour porter les couleurs du parti au pouvoir. Et c'est une investiture qui interpelle, car elle confirme d'une certaine façon la volonté du président sortant Mamadou Issoufou de ne pas modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir et donc de ne pas briguer un troisième mandat. C'est suffisamment rare sur le continent africain et notamment au Niger pour être souligné. L'occasion donc de lancer le débat ce matin. Se dirige-t-on vers une alternance pacifique au Niger? Comment expliquez-vous d'ailleurs ces nombreuses investitures à 2 ans de la présidentielle? Vous nous appelez donc 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Kossi nous a contacté du Gabon, il est à Libreville. Bonjour Kossi.
Bonjour, monsieur Juan.
Merci de votre fidélité. Vous avez des questions, vous, sur l'opposant togolais, François Bocco?
Tout à fait. François Bocco, homme politique togolais exilé en France depuis 2005, a décidé de retourner dans son pays, mais est bloqué à l'aéroport aussi par Air France.
Oui.
Bon, j'ai deux petites questions là-dessus. Pourquoi la compagnie a-t-elle refusé de le laisser embarquer? Ma deuxième question, pourquoi François Bocco décide-t-il de retourner actuellement dans son pays après 14 ans d'exil?
Oui, c'est vrai que jeudi dernier, après 14 ans d'exil, l'ancien ministre devenu opposant espérait bien rentrer au Togo à bord du vol Air France Paris-Lomé. Seulement voilà, vous le disiez, Kossi, à l'aéroport de Roissy, il s'est vu notifier une interdiction de monter à bord de l'avion. Bonjour Julie Vandal.
Bonjour Juan, bonjour Kossi.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Pourquoi la compagnie Air France a-t-elle refusé d'embarquer François Bocco?
Alors la raison est très simple, hein, c'est qu'une compagnie aérienne est responsable du passager qu'elle transporte dès qu'il embarque et jusqu'à ce que ce passager débarque à destination, ce qui veut dire en somme qu'un transporteur est tenu de se conformer aux exigences d'entrée sur le territoire des pays qu'elle dessert. Alors nos auditeurs qui ont pris un vol à l'international l'ont sans doute remarqué, dès le comptoir d'enregistrement, le personnel des compagnies aériennes, que ce soit Air France d'ailleurs hein, ou d'autres, demande le passeport au client, vérifie si tout est en règle et ensuite eh bien, embarque ce passager. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien, il refuse de l'embarquer. Et dans le cas de François Bocco, les autorités togolaises affirment qu'il n'était pas en règle. La présidence clame que pour rentrer au Togo, eh bien, un binational, ce qui est le cas de François Bocco, il est né togolais mais il a aujourd'hui la nationalité française avec un passeport français. Donc eh bien, François Bocco devait être muni d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité, sans quoi eh bien, il faut un visa. Alors ça, c'est la version de la présidence togolaise en date de vendredi. François Bocco, lui, dit être en règle et il s'appuie pour cela sur un communiqué du ministère des Affaires étrangères, communiqué daté du 4 juillet 2014, qui indique eh bien, que les binationaux peuvent être munis de leur passeport, donc passeport français, et de tout autre document togolais prouvant qu'il est d'origine togolaise. En l'occurrence, M. Bocco avait un acte d'état civil qui, selon ce texte, lui permettait de rentrer sur le territoire. Mais selon l'ancien ministre et opposant, eh bien, les autorités auraient mis en garde Air France. D'après son récit, c'est la chef d'escale du vol qui est venue le voir pour lui notifier que les autorités avaient même menacé la compagnie de ne pas faire atterrir le vol s'il était à bord. Alors je vous laisse imaginer le scénario. Si cela s'était produit, l'avion aurait dû aller se poser dans une capitale voisine, sans doute à Cotonou au Bénin. Air France aurait dû assurer le transfert des quelques 200 voyageurs vers Lomé, sans compter les remboursements pour désagréments et la très mauvaise pub qui s'ensuit. Bref, hors de question pour Air France de prendre un tel risque.
Pourquoi François Bocco décide-t-il de rentrer maintenant au Togo après 14 ans d'absence?
Eh bien, je lui ai posé la question et ce qu'il m'a répondu, c'est j'ai envie de retrouver les miens après tant d'années de séparation. L'autre raison est plus politique. politique. Hein. L'ancien ministre ne fait plus vraiment mystère de son intention de se présenter à la présidentielle de 2020. D'ailleurs, il le laissait sous-entendre lors de l'interview en début de semaine sur nos ondes. François Bocquet affirme d'ailleurs avoir voulu rentrer dès le mois de décembre 2018. Mais lors des discussions avec les émissaires du président togolais, c'est comme ça qu'il les appelle, eh bien Faure Gnassingbé n'aurait pas souhaité qu'il rentre avant le 20 décembre. C'était la date des législatives. L'ancien ministre aurait donc été obligé de reprendre ses démarches administratives en janvier, mais toujours selon lui, Lomé aurait depuis soufflé le chaud et le froid à mesure que son retour devenait concret, jusqu'à donc cette interdiction d'embarquer jeudi dernier. Interdiction qui lui fait dire qu'il s'agit d'une stratégie pour les autorités, un moyen de gagner du temps pour qu'il ne rentre pas dans un délai qui lui permette de prendre des mesures en vue d'une éventuelle candidature en 2020. Alors en clair, pour lui, les autorités font tout pour qu'il rentre le plus tard possible. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que selon le code électoral, pour être candidat à la présidentielle togolaise, il faut entre autres résider sur le territoire national depuis 12 mois au moins. Or, la présidentielle est prévue en avril 2020.
Dans 12 mois, exactement. Donc le compte à rebours est enclenché pour François Bocquet. A-t-on répondu à vos questions, Kossi ?
Tout à fait, merci.
Et bonne journée. Merci, bonne journée à Libreville, au Gabon, Julie Vandal, à bientôt. Et si vous souhaitez réagir à cette actualité, n'hésitez pas à la Libre Antenne le vendredi, vous commentez les sujets qui vous marquent dans l'actualité internationale, africaine, française, tous les sujets évidemment nous intéressent. Michel Arcelot du service Afrique de RFI nous rejoint à l'instant. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio, nous accueillons Silver qui nous appelle de Lomé. Silver, bonjour.
Bonjour Juan, bonne arrivée, comment vous allez ?
Très bien, ravi de retrouver les auditeurs après quelques jours de vacances. Vous avez des questions, Silver, sur l'assassinat d'un ancien agent du renseignement français dont le corps a été découvert sur un parking de Haute-Savoie dans le centre-est de la France.
Oui, en effet Juan, Daniel Forestier, un ex-agent des services secrets français, a été tué par balle alors qu'il était mis en examen pour un projet d'assassinat d'un opposant congolais. Sait-on s'il y a un lien entre sa mort et le projet d'assassinat dans lequel il était impliqué ?
Alors, Michel Arsenault, c'est clairement un meurtre qui intrigue. Rappelons que son corps a été retrouvé criblé de balles. Et comme le rappelait Silver, le nom de Daniel Forestier était apparu dans le cadre d'une enquête sur un projet d'assassinat visant un opposant congolais, Ferdinand Mbaou. Sait-on s'il y a un lien entre cet assassinat et le projet qu'il aurait eu d'assassiner, effectivement, ou qu'il a eu, comme pour reprendre la question de Silver, d'assassiner cet opposant congolais ?
Ben oui. Pour répondre à la question, il faut bien la poser. J'allais vous proposer, Silver, de poser la question au conditionnel, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Y a-t-il un lien entre la mort et le projet d'assassinat dans lequel il a été impliqué ? J'aurais dit, moi, il aurait été impliqué, parce que Daniel Forestier avait été mis en examen, ou si vous préférez, inculpé, mais sa culpabilité n'avait en rien été démontrée. Donc, peut-on faire un lien ? On n'en sait rien. Daniel Forestier était un ex-espion, d'accord, et peut-être un espion encore en service, mais il peut très bien avoir été tué pour de toute autre raison. Selon le journal Le Monde, il avait récemment travaillé pour Dariga Nazarbayeva, l'une des filles de l'ex-président du Kazakhstan, qui a de réelles chances de succéder à son père. Daniel Forestier était son garde du corps, mais selon les enquêteurs cités par Le Monde, il se chargeait aussi de missions de renseignement pour la famille Nazarbayev. Pour résumer, on ne sait pas grand-chose sur le mobile du crime, ni sur son assassin ou ses assassins.
Donc, si je comprends bien, Michel Arsenault, cet ancien membre du service Action de l'armée, n'était pas vraiment à la retraite.
Ben, officiellement, il écrivait des romans d'espionnage à compte d'auteur. Il tenait un café à Luzinge, la commune où il habitait dans le département de la Haute-Savoie. Il faisait de la politique locale, il était conseiller municipal, du moins jusqu'à sa mise en examen en septembre. Il avait démissionné sans donner de raison à son ami, au maire de Lucinge à ce moment-là. Mais il avait été très actif dans la vie de la commune, sur le site de Lucinge. On le voit d'ailleurs en photo, participer à un concours sur un champ de tir. Ce qui est un peu moins connu, c'est que Daniel Forestier était un adepte de médecines alternatives. Sur son site web, l'ex-agent de la DGSE se présente même comme un magnétiseur et un hypnothérapeute.
Ouais. Donc assassinat qui pose évidemment de nombreuses questions. S'agit-il d'un règlement de compte ? Faut-il y voir l'élimination d'un témoin gênant ? Vous avez d'autres questions, Silver ?
Oui, en effet, Juan. Quelles peuvent être les conséquences de cet assassinat sur l'enquête qui le visait?
Elles peuvent être graves, parce que avec la disparition de Daniel Forestier, c'est une partie essentielle des preuves qui disparaissent. C'est du moins ce que les avocats du général Ferdinand Bahou ont soutenu dans un communiqué. Pour eux, la mort de Daniel Forestier met en évidence la violence extrêmement préoccupante à leurs yeux qui règne dans ce milieu. Et le général Mbaou m'a tenu le même discours quand je l'ai rencontré vendredi. C'est un monsieur qui vit modestement en région parisienne. Et il disait ne pas en vouloir à Daniel Forestier, même s'il aurait été impliqué dans un projet d'assassinat qui le visait, se disait déçu de voir que le procès ne pouvait pas aller de l'avant en bénéficiant des informations qu'il aurait pu éventuellement communiquer aux enquêteurs.
Ouais, Daniel Forestier, qui, rappelons-le tout de même, a toujours nié ces accusations. A-t-on répondu à vos questions, Silver ?
Bon, ça va, merci beaucoup.
Ça va, ça
merci
va.
À vous. Tant mieux, merci alors. À Michel Arsenault.
Oui, surtout à Michel Arsenault qui est venu vous répondre. À bientôt, Michel.
J'aurais préféré moi-même donner de meilleures réponses.
Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on est là pour donner les informations que nous disposons. Donc voilà, pour l'instant, à l'heure qu'il est, ce que nous savons sur cet assassinat mystérieux d'un ancien agent du renseignement français en Haute-Savoie. Il est 9h22, ou ça, je ne sais pas, si à Niamey, par exemple, à N'Djamena, à Yaoundé, 10h22 ici à pareil, 8h22 en temps universel. On s'habitue au changement d'heure. Hein. Vous savez qu'on est passé à l'heure d'été dimanche et on a quelques réflexes qui persistent et qui durent. Donc on a tendance à donner l'heure d'hiver. Non, il est bien 10h22 ici à Paris. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour.
Je vous vois sourire, mais mettez-vous à ma place. On change d'heure tous les 6 mois, c'est compliqué. Chef du service des sports de RFI, on vous a demandé de venir, Alejandro, car nous avons reçu des questions sur le Real Madrid et sur Zinedine Zidane, qui a fait son grand retour au début du mois dernier à Madrid. Henri, ce sera dans quelques instants, c'est Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons avec Alejandro Valente.
Oui, Zinedine Zidane est de retour comme entraîneur au Real et devait disposer plus de 500 millions d'euros pour recruter de nouveaux joueurs. Ma première question, Juan, comment peut-on expliquer que le club dispose autant de moyens pour le recrutement des nouveaux joueurs?
On va déjà, si vous le permettez, répondre à cette première question. C'est vrai que, bon, il s'agit de rumeurs, l'information n'a pas été vérifiée, mais enfin, elle a été révélée par la presse espagnole, par nos confrères du quotidien français, l'Équipe. Zidane disposerait d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour embaucher des joueurs au mercato d'été?
Oui, c'est l'Équipe qui l'affirme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Real, si vous voulez, il y a eu 4 succès en Ligue des Champions depuis 2014. Ça a masqué un vieillissement de l'équipe. L'équipe n'a guère évolué depuis plusieurs années. Et même Zinedine Zidane a apporté peu de changements à l'effectif. Donc évidemment, des joueurs ont vieilli, ont perdu un peu de leur puissance. On peut penser aux stars comme Sergio Ramos ou Benzema ou Gareth Bale ou Modric. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il est temps pour le Real Madrid de se renouveler.
J'entends bien, mais 500 millions d'euros, ils sortent d'où ?
Disons que déjà, ils sortent des ventes des joueurs. Vous savez, il y a par exemple Cristiano Ronaldo qui est parti l'été dernier, ça a rapporté plus de 100 millions. En fait, les derniers exercices ont été plutôt excédentaires au niveau des transferts pour le Real Madrid. Il y a plus de joueurs qui sont partis, je pense à Morata également, à quelques autres. Donc il y a un peu d'argent qui est rentré dans les caisses et qui n'est pas reparti. Et puis, il y a d'autres joueurs qui vont partir. On pense à Varane, par exemple. On pense à Gareth Bale, qu'on annonce également sur le départ. Donc, ça va rapporter de l'argent qui pourra être réinvesti. Alors, le montant des 500 millions paraît un peu excessif, d'autant que le Real Madrid a un autre chantier, qui est le renouvellement du stade Santiago Bernabéu. Mmh. Le président a été autorisé à s'endetter à hauteur de 575 millions d'euros pour les travaux à venir au Real Madrid. Donc, ajouter à cela plusieurs centaines de millions sur le marché de transfert, ça risque de faire beaucoup. Mm-hmm. Donc, il faudra voir comment se passe l'opération départ également de certains des joueurs. Peut-être n'arrivera-t-on aux 500 millions. D'ailleurs, toutes ces révélations ont créé une certaine irritation au sein du club qui a peur qu'à l'issue de l'été, les supporters soient un peu déçus si les attentes ne sont pas totalement comblées.
En tout cas, visiblement, en coulisses, les grandes manœuvres ont commencé, justement, pour essayer de débaucher ici et là certains joueurs, ce qui suscite évidemment des questions. Patrick?
Oui, j'ai une deuxième question là. Selon les rumeurs qui parcourent, le Real veut recruter Kylian Mbappé. Est-il prêt à partir alors qu'il est indispensable au PSG?
Alors, Kylian Mbappé, on sait que le Real rêvait déjà de le recruter il y a 2 ans. À l'époque, Kylian Mbappé avait plutôt choisi le Paris Saint-Germain. Maintenant que Zidane est de retour à la Casablanca, au Real Madrid, est-ce qu'on peut imaginer un départ de Kylian Mbappé du PSG?
Alors, on peut imaginer qu'un jour, Kylian Mbappé aille au Real Madrid.
Un jour,
bien sûr, un jour.
Donc, mais ce n'est pas pour...
Cet été, ça paraît quand même assez difficile, dans la mesure où le joueur est sous contrat, son salaire va être revu à la hausse. Il a l'air quand même épanoui au sein du PSG, même si le PSG, comme le Real Madrid d'ailleurs, ont été éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il sera champion dans quelques jours ou semaines, etc. Donc il est peu probable qu'il parte cet été. On imagine peut-être davantage l'année prochaine, après l'Euro, que la France convoite éventuellement.
Alors 500 millions d'euros, ça fait une sacrée somme, on en parlait il y a quelques instants. Pourquoi faire alors? Pour recruter qui si Kylian Mbappé n'est pas sur la liste? On parle d'Eden Hazard.
Oui, Eden Hazard qui est à un an de la fin de son contrat à Chelsea, donc c'est une possibilité réelle, même si Chelsea est un peu embêté car il a été interdit de recrutement, donc du coup perdre des joueurs comme ça, c'est pas forcément évident.
En tout cas, Zidane est un fan.
Absolument, et ça fait des années qu'on en parlait au Real, et d'ailleurs, une des raisons du départ de Zidane l'été dernier, ça avait été justement la non-arrivée d'Eden Hazard. Donc il y a aussi Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool, qui plaît beaucoup à Zidane. On parle également, parmi les joueurs qui intéressent le Real, de Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, qui plaît également. Mais voilà, tout ça devra faire l'objet quand même de savants calculs, et on compte beaucoup sur les relations personnelles des Zidane avec certains des joueurs qui intéressent le club. On pense aussi à Paul Pogba, avec qui on a eu quelques échanges ces dernières semaines.
Pogba qui rêve aussi, hein, un jour, a-t-il dit, de jouer au Real Madrid. Mais enfin, si on regarde la liste, on prend Hazard, on prend Pogba et on prend Mbappé, on est déjà autour des 500 millions.
Voilà, mais je pense qu'on n'aura pas tous les trois, donc il faudra faire des choix, il faudra voir. Il faut penser aussi que le Real a déjà dépensé près des 100 millions sur le prochain mercato, puisqu'il y a 2 joueurs brésiliens qui ont été recrutés, Éder Militão, un défenseur qui devrait remplacer Varane, et l'attaquant Rodrigo. On pense aussi à des joueurs qui sont arrivés au cours des mois précédents, comme Vinicius, qui ont donné satisfaction. Il faudra voir un peu, faire un point sur l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui vont partir, après on verra ceux qui vont arriver.
A-t-on répondu à vos questions, Patrick?
Merci Juan, merci beaucoup Juan.
Eh ben merci surtout Alejandro Valente qui est venu avec plein d'informations ce matin. À bientôt Alejandro.
À bientôt.
Et à bientôt Patrick, bonne journée à Port-Gentil. Henri, désolé pour vous Henri, je sais que vous étiez au standard, vous souhaitiez poser une question ce matin, vous avez effectivement prépositionné pour une question que vous aviez sur Monsanto. Monsanto, vous savez cette firme américaine qui a été condamnée la semaine dernière à verser 80 millions de dollars à un retraité malade d'un cancer attribué à Roundup, ce désherbant qui fait polémique aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. Donc pas d'inquiétude Henri, nous vous rappellerons évidemment demain matin, et Frédéric Henri qui est économiste au CNRS sera de nouveau là avec plaisir pour vous répondre. D'autres questions donc demain, d'ici là vous connaissez le principe, appelez-nous, on a besoin de connaître vos questions avant de commencer l'émission. 33 9 693 693 70, et on a besoin de connaître vos questions, non pas pour censurer mais au contraire pour trouver au sein de la rédaction le journaliste le plus spécialisé sur la question posée pour venir en direct vous répondre. À suivre le journal et on se retrouve dans 10 minutes, on parlera de la présidentielle au Niamey. La polémique est déjà lancée sur place.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.